Imaginez essayer de sauver un proche de la noyade et découvrir que lui lancer une bouée, bah, c'est précisément ce qui va le faire couler. C'est le paradoxe un peu cruel qu'on aborde dans notre exploration d'aujourd'hui.
Ouais, c'est une image frappante.
On se plonge dans un article vraiment fascinant de Digital Wellness sur les jeux gargants et surtout sur le rôle de l'entourage face à l'addiction. C'est un sujet vital pour quiconque écoute parce que, honnêtement, les paris sportifs ou le poker sont partout aujourd'hui.
Complètement. C'est devenu hyper banal d'avoir ça sur son téléphone. Et c'est toute la difficulté qui est mise en lumière par cet article.
C'est ça. Comprendre la frontière invisible entre le simple loisir et la perte totale de contrôle, c'est essentiel.
Exactement. Et l'article montre bien qu'il ne s'agit pas seulement de la personne qui joue, en fait, mais vraiment de cette mécanique implacable qui vient piéger son entourage. Ça transforme notre empathie naturelle en une arme presque destructrice.
Décortiquons cela parce que pour aider un proche, il faut d'abord comprendre comment le jeu piège le cerveau. On a souvent tendance à penser que le jeu compulsif, c'est juste, je sais pas, une question de hasard ou d'appât du gain.
Alors que c'est bien plus profond et insidieux.
Voilà. En croisant les données de l'article, j'ai plutôt vu ça comme un GPS mental qui se fait pirater. Le système de récompense du cerveau reçoit des fausses directions, lui faisant croire qu'une perte est en fait une progression vers la victoire.
C'est une très bonne analogie. En fait, le cerveau humain n'a tout simplement pas évolué pour gérer le renforcement intermittent.
Ouais. Le renforcement intermittent, c'est-à-dire...
Bah, c'est le système de récompense généré par un algorithme. Physiologiquement, une victoire va déclencher un pic massif de dopamine. Mais, et c'est là que c'est redoutable, un presque gain, quand on frôle le jackpot à un chiffre près, par exemple.
Ah oui, le fameux presque, la machine qui s'arrête juste à côté du bon symbole.
Exactement. Bah, ce presque gain déclenche un pic de dopamine presque identique à une vraie victoire. Donc, les circuits neuronaux enregistrent un succès imminent au lieu d'une perte financière.
C'est fou. Donc, ce besoin irrépressible de se refaire, dont parle la source, c'est pas du tout un simple caprice, en fait.
Non, pas du tout. C'est vraiment un besoin neurologique d'achever un cycle artificiel qui a été créé par le jeu.
Et du coup, ça crée une dissonance cognitive majeure. Le joueur est absolument convaincu de maîtriser la situation, d'avoir une méthode infaillible, alors que son libre arbitre est totalement court-circuité.
C'est tout à fait ça. Et puisque l'illusion du contrôle est totale chez le joueur, bah c'est l'entourage qui se prend de plein fouet le choc de la réalité. C'est eux qui doivent détecter les failles.
Mais justement, est-ce que les signaux d'alerte, c'est juste, je sais pas, des découvertes bancaires énormes ou des dettes évidentes?
Eh bien non. Et l'auteur insiste bien là-dessus. Il ne faut pas forcément chercher des signaux aussi gros. Les véritables premiers indices sont beaucoup plus discrets. Ce sont des micro-comportements.
Genre quoi, par exemple?
Bah, un stress accru, une hyper-réactivité au téléphone, une obsession pour des résultats sportifs mineurs, ou même une irritabilité complètement disproportionnée quand on interrompt la personne pendant une session sur un écran.
D'accord, je vois le genre. Et sous cette irritabilité, l'article nous apprend qu'il se cache souvent un sentiment dévastateur de honte, c'est ça?
Tout à fait. Une honte immense et une forte culpabilité. Et c'est d'ailleurs ce qui rend toute discussion explosive.
Parce qu'on perçoit cette culpabilité derrière le mur de déni et de mensonge. Et du coup, notre instinct de protection s'active instantanément, ce qui est normal.
C'est l'instinct humain de base quand on aime quelqu'un.
Voilà. On se dit qu'en épongeant une dette, on va alléger cette pression insoutenable. Mais j'ai quand même une objection forte par rapport aux conclusions de la source. C'est pas totalement contre-intuitif, voire cruel, de refuser de payer les dettes d'un proche qu'on aime pour le sauver.
Alors, ce qui est fascinant ici, c'est que notre définition même de la cruauté est totalement inversée par l'addiction. Payer la dette d'un joueur, c'est pas du tout le sauver.
Ah bon?
Non. L'article précise bien que ça agit comme un amortisseur. Ça l'empêche de s'écraser contre le mur de la réalité.
Ah, je comprends. On lui enlève la conséquence douloureuse de ses actes.
Exactement. En supprimant la conséquence financière, on le prive du seul électrochoc capable de briser ce fameux cycle de la dopamine dont on parlait. Couvrir les dettes, ça ne fait qu'entretenir la dépendance.
Donc, en voulant bien faire, l'entourage devient paradoxalement le filet de sécurité qui valide et finance la maladie. C'est vraiment la frontière tragique entre soutenir quelqu'un et faciliter son addiction.
C'est très dur à accepter pour les proches, mais oui. Et pour désamorcer ce piège, la communication doit changer de nature.
Concrètement, L'article recommande de faire comment alors?
Eh bien, faire des reproches constants, ça ne marche pas. Ça nourrit juste la honte de la personne, ce qui décuple son besoin de fuir dans le jeu pour s'anesthésier. La clé, c'est de partir de ses propres observations.
En disant des choses comme « je m'inquiète pour toi » sans accuser?
Voilà, on affirme qu'on s'inquiète et on y associe des limites personnelles strictes, comme par exemple le refus catégorique de prêter de l'argent.
Abandonner la personne, c'est plutôt protéger ses propres fondations pour pas être entraîné dans la spirale avec elle.
Exactement, tout en forçant la personne à faire face aux répercussions, ce qui peut finalement la pousser à consulter des médecins ou des psychologues.
Pour résumer, l'approche idéale de notre exploration, c'est de ne pas chercher à tout régler tout seul. On maintient le dialogue ouvert, on pose des cadres clairs et on encourage vraiment la personne à se faire aider par des pros.
C'est le seul véritable chemin vers la guérison. Et d'ailleurs, si on connecte cette mécanique de l'addiction à une vue d'ensemble, ça soulève une réflexion finale assez troublante, je trouve.
Ah oui, hein ? Je suis curieux de t'entendre là-dessus.
Si l'esprit humain tombe si facilement dans le piège de la récompense aléatoire et du besoin compulsif de se refaire, on peut se demander combien d'autres plateformes numériques quotidiennes utilisent ça.
Tu penses aux réseaux sociaux, par exemple ?
Les réseaux sociaux, les applications, les jeux vidéo sur mobile. Combien intègrent secrètement ces exacts mêmes mécanismes de casino pour pirater notre attention au quotidien, sans même qu'on s'en rende compte?
C'est une excellente question et ça donne vraiment matière à réfléchir sur notre propre rapport à nos écrans et aux clics quotidiens.